I'm a man. Well, nobody's perfect. I'm a man.
Un obo BD avec les deux O qui pourraient être les yeux de Monsieur Chouette. Monsieur Chouette, c'est l'un des événements de la rentrée BD David B à l'association Marie. Alors Marie, c'est une jolie Parisienne, mais jamais vous ne la croiserez. Elle se cache parce que son ombre est monstrueuse. Quand elle était petite, l'ombre était douce comme un chaton. Depuis, Marie est encombrée d'une ombre digne de la traîne d'une robe de mariage qu'on ne désire pas. Cette ombre, elle est devenue un fauve, un danger. Et on pense d'ailleurs brièvement aux panthères de Brecht Evans. Une nuit, Marie rencontre Monsieur Chouette. Curieux personnage, ce Monsieur Chouette. Il affirme pouvoir apprivoiser cette ombre si Marie le suit au pays des morts. Monsieur Chouette est-il un prédateur, un beau parleur des nuits interlopes? Eh bien, en fait, Monsieur Chouette, c'est un psychopompe. Alors, qu'est-ce qu'un psychopompe? C'est un mot barbare qui désigne celui qui conduit les âmes des morts d'un monde à l'autre. Hermès est le dieu psychopompe. Et par exemple, dans Le Fils de Pampe, autre BD épatante de Fabrizio Dori, Hermès apparaissait au volant d'une Chevrolet Bel Air Hardtop modèle bicolore 55, et c'est ainsi qu'il conduisait les morts. Va, va, voum. Alors, L'Outre-Monde, David B. ne le lit pas au paradis ou aux enfers. Il n'y a pas de châtiment, de récompense. Retenez que dans Monsieur Chouette, L'Outre-Monde, c'est un contre-monde. Y pénètre tout ce qui est mort. Les fantômes, les mers, les arbres, des tas de maisons en tas, détruites chez nous, elles migrent là-bas. Et les eaux dormant à jamais avec deux vers de Lamartine, là, le lac immobile étend ses eaux dormantes où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Les voitures sont évidemment toutes radicalement accidentées. Là, je me suis dit que le roman Crash de Ballard se passait en fait dans ce contre-monde. Qui a tenté de lire cette œuvre ou vu le film de Cronenberg sait que ces accros totaux ou crash auto des célébrités, il reconstitue les morts de James Dean, de Jane Masefield. Je suis sûr qu'ils se réunissent en fait dans ce contre-monde. Monsieur Chouette se déroule, autre mot barbare, dans le pandémomium. Pandémomium, c'est la cité du désordre, surpopuleuse, en état constant d'implosion. Dans les rues changeantes, car c'est une ville mal rangée, il y a une surdensité de spectres au mètre carré. Ils portent les costumes de leur époque. Bicorne révolutionnaire, chapka, grand hennin pointu du Moyen-Âge, coiffe hérissée de perles sorties de la Renaissance. Mieux, nombreux sont les morts que David B. traite avec le style esthétique de l'époque de leur mort. Je m'explique, on ne compte pas les apparitions cubistes, les fresques aztèques, les calaveras mexicains, les masques africains très Picasso, de drôles de gueules dadaïstes, des figures déformées par le cri de Munch. Et la farandole continue. Futurisme, art déco, l'histoire de la BD, tous les styles cohabitent, s'agglomèrent. La mort est un immense carnaval, la mort est une fête. Alors évidemment, ça file un peu le vertige de la liste. Vous avez ouvert la BD. On tient une sorte de « Où est Charlie ?» Arty, vraiment quelque chose avec les machineries de Fernand Léger, les œuvres de Jérôme Bosch, Fous, Démons et Délices. Les vues sous-marines sont des gravures pour un Jules Verne plongé dans le Styx. L'accumulation nécessite un déchiffrement attentif, si bien que le livre coûte un peu cher, mais je me suis aperçu que au niveau du temps de lecture, c'est vite rentabilisé. mais il est très beau en plus. Hein, donc, oui, donc il y a des sourires dans la...
Je suis atterré.
C'est mes prises de notes. Alors, donc nous voilà, surtout avec Monsieur Chouette. Donc, il y a tous les styles, mais ça baigne surtout dans une atmosphère profuse, étouffante, diront certains, mais pas moi, dans un climat expressionniste. Vous savez, l'art allemand et carnavalesque de l'avant-guerre. Alors, seule la couve et le plat de Verso sont en couleur, et l'une et l'autre sont magnifiques, en particulier le plat de Verso, moi, que j'expose sur ma bibliothèque. David B. a assis sa réputation avec son travail du noir et blanc. Est-ce que vous avez lu à l'époque L'Ascension du Haut-Mal ou
non,
d'autres... David B, c'est pas trop votre...
Non, j'avoue, ouais, que c'est pas trop ma cam, entre guillemets. Après, ça n'enlève pas la beauté du travail et du dessin.
Eh bien, Monsieur Chouette, c'était un bon moyen pour commencer David B, plus que l'Ascension du Haut-Mal. Ce noir et blanc très contrasté, très noir, permet d'unifier tous ces univers qui s'entrechoquent, s'intriquent. Unifié, ok, mais pas uniformisé. Le noir et blanc permet un usage très fin des motifs, rayures, parquets, fleurs, un beau manteau à carreaux aussi pour Maria à un moment. Le damier revient souvent et l'on pense à Valeska Gert, qui était une danseuse de cabaret du Berlin des années 20, décidément, et qui portait un tailleur à maxi damier. Je mettrai une photo sur nos réseaux sociaux. Et ce motif suffit à convoquer tout d'un coup un esprit Mittel-Europa, Man Ray, Otto Dix, Lotte Eisner, Fritz Lang, le tout Berlin passé au célèbre Romanische Café entre un bal costumé et un spectacle burlesque. C'est là qu'il faut caser un extrait de Cabaret où Joël Grey et la troupe chantent le thème d'ouverture dans le film de Bob Fosse.
Outside, it is windy, but here, it is so hot. Every night, we have the battle to keep the girls from taking off all their clothing. So, don't go away. Who knows? Tonight, we may lose the battle.
Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you.
Voilà une époque où le cabaret était un espace de pur carnaval, où les frontières devenaient perméables et où les valeurs sociales étaient malmenées pour en révéler l'artificialité et la relativité. Et cette digression musicale dans le Berlin d'avant-guerre, c'est pour vous dire comme un simple motif, un manteau à carreaux, peut convoquer toute une époque et nourrir l'œuvre qu'on essaye de débrouiller en prenant des notes... ne vous en déplaise. Le noir et blanc vernit et expose ce monde indéchiffrable. Et dans les cases abondent des mots, enseignes, publicités peintes, étranges pancarte lors d'une manif zébrée d'un large N suivi d'un point d'exclamation. Mots amputés, pièces d'un puzzle qui ne correspondent pas, et puis alors ce nombre de chiffres aussi qu'on voit dans les cases. Un agencement occulte est-il proposé aux lecteurs chercheurs ? Vous savez, comme un jeu de points à relier qui ferait émerger une figure complexe. On ne sait pas, on est de l'autre côté, on est superbement paumé. Les vivants puent. Alors là, on va attaquer la, vraiment le, plus le cœur de l'histoire. Les vivants puent, les vivants puent la vie. Extrait. Ça sent la vie par ici. Oui, c'est bien l'épouvantable odeur de la vie. Et derrière, on entend cette rumeur continue, comme une foule qui marche. Ce sont les cheveux et les ongles qui poussent, le cœur qui bat, le sang qui coule dans les veines et les artères. Et ça, c'est troussé comme du Prévert écarné, je trouve. Le réalisme poétique, on imagine le suave Jules Berry dire ça dans Les Visiteurs du Soir. Et d'ailleurs, les scènes de foule dans Monsieur Chouette évoquent celles dans Les Enfants du Paradis. Alors, en effet, des vivants essayent de se cacher dans ce pays des morts, d'y vivre. Et ils sont chassés. Par un méchant d'anthologie. Et c'est là que j'avais envie de vous poser la question. Vous avez croisé un grand méchant, un méchant, un antagoniste d'anthologie ces dernières semaines, vous ? Vous pouvez dire non.
Moi, j'ai pris plutôt un méchant, du coup, qui m'a fait plutôt beaucoup rire. En fait, voilà, je repars sur la BD, en fait, de juniors et seniors, où dans leur histoire, ils vont rencontrer les Canadiens. Sauf que les Canadiens, en fait, ce sont des Mexicains. Donc, et voilà. Et en fait, c'est le côté plutôt burlesque du méchant, en fait, qui m'a beaucoup plu là-dedans.
Très bien. Et, voilà. Et vous avez un méchant qui vous a marqué.
J'ai une méchante qui s'appelle Samantha Strong, dont je vous ai déjà parlé. C'est dans une BD qui s'appelle Beneath the Trees When Nobody Sees. Mais oui, qui est une petite oursonne toute mignonne, mais qui est en fait une serial killeuse.
Je pense à vous deux, je pense qu'on parle. Enfin, vraiment de cette BD, on continuera d'en parler.
Je pense. Il y a une petite suite qui arrive en plus, donc ça c'est cool.
Ouais.
Alors moi, ce méchant d'anthologie, je l'ai trouvé dans Monsieur Chouette. C'est Cerbère. Cerbère, oui. Vous savez, Cerbère, c'est le chien à trois têtes qui gardait les enfers, non pas pour empêcher d'y entrer, ce n'était pas une boîte de nuit, mais pour empêcher d'y sortir, d'en sortir. Les vivants, en tout cas, ils doivent se cacher. Cerbère, avec ses trois truffes redoutables, les sentent de loin. Alors, Cerbère apparaît non pas comme un monstre avec trois têtes, mais comme une créature à trois corps connectés en quelque sorte. Un dandy à tête de molos, assez grand. Un dandy à tête de molos qui effraye et qui a la grâce d'Anubis, le dieu chacal des nécropoles. L'adulte, il tient fermement de sa main gantée un enfant qui a la même tête de molos, mais des culottes courtes et un tempérament moins polissé. Et le gosse tient en laisse un énorme molosse, lui à quatre pattes, traditionnel quoi. Cerbère, donc trois fois canidé, va du plus raffiné, le dandy, au plus sauvage, la bête. Le contre-monde vit sous sa coupe réglée, les trois instaurent un régime de terreur. Alors pour échapper au flair de Cerbère, on peut quand même faire des choses quand on est vivant et qu'on veut se cacher. Marie, elle devra aller chez un tailleur pour obtenir des vêtements en peau de fantôme qui masquent le fumet de la vie. Pour dormir, pareil, il faut cacher à Cerbère qu'on rêve. Alors Marie, elle doit ôter ses yeux et dans les cavités vides, un grain de sel, ceindre autour de sa tête un foulard et dormir un peu. Pour se nourrir, c'est un art sorcier. Un foulard noir noué en bas du visage et à chaque bouchée, il faut lâcher un catastrophe qui serait comme une sorte de sort bénéfique. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment, la bande dessinée rencontre l'antique médecine. Je m'explique. Les sorciers faisaient souvent des amulettes avec un sort gravé pour protéger d'une maladie. Le sort était souvent un mot d'ailleurs gravé sur cette amulette. Et ces talismans, figurez-vous, on les appelait des phylactères. Et donc David B., chaman de notre temps, ne fait pas autre chose quand il pose des bulles protectrices, catastrophe, autour de Marie. Donc, j'ajoute que dans ce monde très particulier, quand même, vous le sentez, hein,
oui.
L'inversion des valeurs continue, la nuit rassure, la lumière, c'est le danger. Voyez, il y a des réverbères qui font des conciliabules à trois têtes, instillant un climat paranoïaque. Et le livre baigne dans le climat sombre de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres ou du Paris occupé. On pense à ça. Outre le flux de références esthétiques, on voit la boutique du tailleur mise à sac, évidemment. Enfin, je dis évidemment, en tout cas, le lien historique est évident. Les vivants sont traités comme une sous-race à exterminer. Et il y a une fragile résistance de fantômes qui veulent aider les vivants à fuir. Marie est à la tête de ce qu'on peut appeler un réseau. Cerbère bénéficie de l'aide des gendarmes qui ont le zèle de ceux durant l'occupe, le képi et le zèle. David B., dont on connaît l'érudition échevelée, crée le catalogue chaotique de tout ce qui lui plaît. C'est un univers fou mais cohérent dans lequel il déroule une histoire qui tient quand même sur 250 pages. Et ça aussi, c'est un tour de force. Si après la mort, la transmigration des âmes existe peut-être, le monde, là-bas, est aussi dangereusement peu enclin que le nôtre à accueillir les voyageurs et les migrants.